Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Alors on va procéder par élimination aujourd'hui. Ceux qui n'aiment pas le Japon, les déchets, les chiens, les films d'animation, les îles, les fables, l'humour noir, peuvent sans attendre changer de station et aller par exemple écouter le débat en cours sur Radio Courtoisie sur le thème nazisme et dialogue, étant donné qu'il va beaucoup être question de Japon, de déchets, de chiens, de films d'animation, d'îles, de fables et d'humour noir dans l'heure qui vient. Ceux qui n'aiment pas les films de Wes Anderson peuvent eux aller jeter une oreille sur France Bleu qui consacre une émission à la tragédie de la descente d'organes chez des seniors en zone périurbaine. Enfin, ceux qui n'aiment pas le cinéma tout court n'ont qu'à simplement aller se faire voir. Oui, aujourd'hui, nous consacrons cette édition de Popopop à Wes Anderson et à son emballant film d'animation qui a pour titre L'île aux chiens. Et pour vous montrer à quel point cela nous emplit de joie, toute l'équipe de l'émission, mais aussi la direction générale de France Inter, va vous exprimer son ravissement. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti!
France Inter.
Popopop.
Antoine Decaune.
Au menu de Popopop de la Lazy TV. Vous savez, les séries un peu honteuses que vous regardez vautrer dans votre canapé en mangeant un gros pot de glace. En mangeant plutôt. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec notre spécialiste canapé, glace et série, Ronan Cros. À mes côtés, dans le camp de Popopop, Charline Roux. Vous êtes lazy devant votre télé, vous?
Ah ben, je suis lazy dans la vie, en fait. C'est un mode de fonctionnement.
Avant de mettre son cerveau sur off, on le met sur on avec le réalisateur américain Wes Anderson que nous avons rencontré dans ses bureaux parisiens pour parler de son dernier film L'île aux chiens qui sort aujourd'hui. Bonjour Wes Anderson.
Bonjour.
Et bienvenue dans Popopop. Voilà pour le menu. Wes Anderson, je laisse à celui qui a remporté l'Oscar de la meilleure musique de film en 2015 pour The Grand Budapest Hotel, un film signé d'un certain Wes Anderson, le soin de lancer cette émission.
Salut, c'est Alexandre Desplat dans Popopop. Popopop, c'est parti.
Merci Alexandre Desplat. Popopop, c'est effectivement parti. Wes Anderson,
yes.
Ici, il existe une question. Une question qui peut provoquer un malaise proche de celui de Marion Cotillard dans Batman.
Really?
Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? For you, what is pop culture?
Pop culture... is I don't pop. Know if I have a clear
je
idea
sais pas si
of
j'ai
what
vraiment
pop culture is
la notion très claire de ce que c'est
other culture,
en relation avec toutes les autres cultures.
I think that good j'ai l'impression art que that is popular,
l'art populaire, quand il est de qualité,
I mean, particularly in cinema,
et surtout dans
le
cinéma, moi je ne sais pas comment on le sépare. Comment on dit qu'il y a une culture qui n'est pas pop et une culture qui soit pop, ça je ne vois pas. J'ai vraiment conscience qu'il y a plein de choses en art qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses que je trouve vraiment pas bonnes. Mais je ne fais pas vraiment de frontière entre ce qui est populaire, pop, et une autre culture plus élevée.
Pop, pop, pop.
Vous connaissiez l'effet « waouh », c'est quand on est agréablement surpris. Et bien, il y a également l'effet « waouh, putain, truc de ouf » quand j'entends du Bruce Springsteen. Mais quel est l'effet sonore quand Charline Roux entend les Queens of the Stone Age? Réponse avec « The Way You Used to Do ».
My beating heart. To do.
The Way You Used To Do, un morceau signé des Queens of the Stone Age. Alors c'était comment, Charline?
Wouhou!
On se calme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Wes Anderson. Mais est-ce Wes l'auteur de ce hit? Ou bien Wes Anderson? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Wes, yes, c'est votre portrait, mais... Et c'est signé Charline.
Comment vous voulez que j'égale à l'année? Ça ne peut pas marcher. Nous recevons aujourd'hui un réalisateur à univers marqué, selon l'expression consacrée, quand on veut signifier que dès la première image de chacun de ses films, on sait de manière immédiate chez qui on est. Avec lui, nous sommes partis en cavale avec les doudingues de Bottle Rocket. Nous avons fréquenté l'école privée de Rushmore. Avec lui, nous avons porté des bandeaux de tennis, hein, sans y jouer, pour ressembler à la famille Tenenbaum, régie par un patriarche royal. C'est son prénom, pas un qualificatif. Mais bon, comme c'est Gene Hackman, c'est royal aussi. Et puis quand on a eu des bandeaux mousse anti-transpi, on a mis des bonnets rouges, non pas pour aller en Bretagne, mais pour aller vivre la vie aquatique avec Steve Zissou, Bill Murray, la perfection faite comédien. Et quand on a eu le mal de mer, notre invité nous a fait préférer le train à bord du Darjeeling Illimited. Limited, pas Illimited. C'est pas Guillaume Pépi, hein, c'est Wes Anderson, je reprécise pour ceux qui suivaient pas. Avec lui, on a rencontré le fantastique Mr. Fox, on a été charmé par son Moonrise Kingdom, on a rêvé de s'installer dans son grand Budapest hôtel. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le nouveau conte d'Anderson, Wes de son prénom.
Ce n'est donc pas l'auteur de ce hit que nous recevons, non. Alors Wes Anderson, passons à votre pop list.
Ok. Quel serait dans votre pop list idéal, quel serait le film qui viendrait immédiatement à votre esprit?
Well, I think what I would say, and this one...
Ce que je dirais, et ce titre-là, on peut vraiment que c'est du grand art. Et on peut aussi dire que c'est un film pop, un film très populaire. Je dirais Les 400 coups. Ce film-là, c'est le film que vraiment, celui que quand je revois, il y a un moment vraiment où, en le voyant, je peux décider si je veux être cinéaste ou architecte ou m'occuper de disques. C'était vraiment en voyant ce film pour la première fois. Et j'espère ne pas m'éloigner de votre question, mais hier soir, on a montré notre film ici, à Paris. Jean-Pierre Léo était présent, qui fait une des voix françaises du film. C'était très émouvant pour moi de le voir, parce que je ne le connais pas tant que ça. Je lui ai demandé effectivement d'être dans le film, mais c'était un grand honneur qu'il accepte.
Il a un petit peu changé depuis Les 400 coups.
Oui, il a grandi. Mais moi, en grandissant aussi, je l'ai vu grandir. Il grandissait quelque part avant moi, mais je l'ai quand même regardé grandir au cinéma.
Moi, j'ai le même âge qu'Antoine Douanel. Je m'appelle Antoine et j'ai grandi dans ce pays, dans ce Paris-là. C'est très troublant pour moi.
You have the same age as Antoine Douanel. Well, you both look great.
Eh bien, vous avez tous les deux bonne mine. Et vous avez vraiment l'air chouette.
Merci, Wes Anderson. Quelle serait votre série préférée?
Well, I want to say.
J'ai envie de dire.
Breaking Bad.
Breaking Bad.
If you've seen it, this is a masterpiece. I think of also The Wire, which is
The Wire aussi, qui est fantastique. I always related to
the films of Frederick Wiseman, who's one of my.
Qui vont toujours penser au film de Frederick Wiseman, qui est un de mes héros. Et The Wire, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la télévision. Mais Breaking Bad.
Say my name, Heisenberg. You're goddamn right.
C'est vraiment ma préférée. Et Bryan Cranston, qui joue dans la série. Et c'est vraiment, je dirais que c'est le plus grand acteur, le plus grande performance d'un acteur dans tous les médiums, dans toutes les choses. C'est une histoire tellement forte. Et c'est un acteur, on savait qu'il était bien, mais on ne savait pas qu'il était comme ça, à ce point-là. Et il joue aussi dans la version originale de L'Île aux Chiens. En France, c'est Vincent Lindon qui joue le même rôle. Et ce sont deux grands maîtres.
Quelle serait votre chanson?
Favorite song.
Chanson. Peut-être que ce serait.
You know, I just saw.
Vous savez?
The Barber song.
Je viens de voir.
L'aigle noir.
L'aigle noir.
That's a
la chanson
song.
De Barbara. C'est une chanson extraordinaire. Je viens de voir le film de Mathieu Amalric, Barbara.
And there's so many songs.
Il y a tellement de chansons dans ce film. Qui sont tellement belles, j'étais très ému par ce film. Et c'était une chanson que je connaissais déjà de Barbara. Et dès qu'elle est passée dans le film, je me suis dit, elle est fantastique, mais ce n'est pas ma préférée. Mais à mesure que je rentrais dans le film, c'est vraiment une chanson que j'ai vraiment aimée en particulier.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées.
Un livre, pour finir.
We've end with a book.
Finir avec un livre.
Well, I want to say, I think... Of all the books,
de tous les livres,
to pick a favorite.
Choisir un livre préféré.
I've said it before in,
vous savez, je l'ai déjà dit dans des interviews, mais
really, the book of the
vraiment,
last 10 years that I was the
le livre qui, depuis 10 ans, m'a le plus ému, sans doute,
is this book, Beware of Pity.
La pitié dangereuse de Stefan Zweig.
His one big novel, and
c'est ce grand roman.
It's a masterpiece.
C'est un chef-d'œuvre.
Yes, but that perhaps I'll go with that one.
Voilà, je dirais ça.
Wes Anderson, avant de parler d'île, de chien, de pop et de pop-up avec L'île aux chiens, le nouveau film de Wes Anderson dans Pop-up-up, on écoute Bror Gunnar Jansson avec le morceau Moan Snake Moan, Part 3, The Bear Snake. Or, Gunnar Jansson sur France Inter dans Pop 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 avec le morceau Moon Snake Moon, Part 3's Bear Snakes. Interminable ce titre. Retour sur L'île aux chiens, le nouveau film de Wes Anderson. Wes Anderson qui nous a accordé un entretien. Vous avez face à vous deux fans transis qui vont faire de leur mieux pour que leur enthousiasme ne fasse pas craquer le vernis de leur professionnalisme. Et je voudrais d'abord savoir s'il est plus agréable d'être interviewé par quelqu'un qui aime inconditionnellement votre travail ou par quelqu'un qui a des réserves.
Much, much, much better,
beaucoup mieux to be with a fan. Avec des fans.
My preference strongly.
C'est vraiment ma préférence.
Reservations are not really that.
Les gens qui ont des réserves, ce n'est pas aussi intéressant.
Vous allez nous adorer.
Très bien, merci.
Vous réalisez L'île aux chiens qui sort dans les salles aujourd'hui. Bande annonce.
L'archipel japonais, dans 20 ans. Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megasaki. Le maire, M. Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens.
C'est votre deuxième film d'animation après Fantastic Mr. Fox. Est-ce que vous pouvez nous parler des mérites comparés qu'il y a à diriger des animaux en peluche par rapport à de vrais acteurs?
Oui. Yes. There are many advantages.
Il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de différences.
I don't prefer
et
j'ai
one pas de préférence véritablement pour l'un
say,
ou l'autre. Je dirais.
There's a great freedom to
il y a une grande liberté en dirigeant des comédiens pour un film animé, parce que c'est un peu comme une pièce radiophonique, comme ce que l'on fait maintenant. Tout est ensuite monté. Et en dirigeant des acteurs pour des voix, c'est comme une répétition que vous utiliserez dans le film. C'est très amusant. Et puis on a de tels acteurs sur ce film qui sont très libres. Et ça a été vraiment une grande libération de travailler avec ces acteurs sur ce film. Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque la spontanéité complète. Et les accidents, quelque part, qui se passent quand on tourne avec des comédiens, avec l'image. Mais on trouve quelque part une version de ces surprises, de ces accidents, quand on travaille dans l'animation. Et il y a une chose en particulier avec ce genre d'animation, image par image, avec ces petites marionnettes, c'est que les animateurs qui font cette animation travaillent d'une certaine façon qui est tout à fait unique. Et la façon dont ils s'emparent des enregistrements des voix et qu'ils leur donnent de la vie avec ces petites marionnettes, même si on a tout bien préparé, il reste un mystère dedans qui, et c'est tout à fait mystérieux pour moi. Et j'ai fait deux films comme ça, ça demande des années de travail, mais ce qu'ils font eux, dans un plan, pour un plan, c'est quelque chose de magique.
Vous avez le sentiment de pouvoir perdre le contrôle parce que c'est un tournage qui s'étale sur plus de 400 jours. C'est un processus très long, très lent.
I don't even think about control.
J'y pense même pas de garder le contrôle. Moi, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Et moi, j'ai avec eux une collaboration très proche. Mais c'est comme des comédiens. Il ne vous faut pas le contrôle. Vous voulez que ce soit eux qui prennent le contrôle. Vous voulez que ce soit eux qui apportent quelque chose. Et donc, même si je donne des directions, même si j'apporte le dialogue, il faut qu'ils apportent leur personnalité à eux. Quelque chose de différent, d'original. Ils prendront tous ces petits détails et ils amèneront ça quelque part. Et ça se passera image par image. Ce sera quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez prévu. Donc c'est très particulier.
Ce
n'est pas quelque chose, en tout cas, qui m'agace ou qui m'angoisse. Parfois, c'est des choses qui vont dans la mauvaise direction, mais il suffit de la corriger, c'est tout. Ce que c'est vraiment profondément, c'est de la magie. C'est de la magie vraiment qui appartient qu'à ce genre d'animation.
Le titre du film en anglais, Isle of Dogs, l'île aux chiens, s'entend aussi I love dogs, j'aime les chiens. Combien de fois avez-vous dû répondre à la question « Est-ce le cas ?» depuis le début de cette promotion. Et puis, est-ce que le film aurait aussi pu être sous-titré « I love Japan » parce que ça semble être une déclaration d'amour au pays?
Well, it, I think it could be called « I love Japan ».
Mais ça pourrait, effectivement, s'appeler « I love Japan ».
In a way, it could be that,
ça pourrait.
That me and my collaborators, we love
pour moi et mes collaborateurs, il se trouve qu'on aime tellement le cinéma japonais. Ça fait partie de notre inspiration pour faire ce film.
Just how moved and inspired
on est tellement émus et inspirés. Par le Japon, et pas seulement pour ce film, mais depuis que l'on fait du cinéma. C'est ça notre culture, c'est ça notre, ce qu'on aime étudier. Mais on n'a pas beaucoup pensé au film sous le titre « I Love Dogs », non. Le titre vient d'un endroit à Londres, qui s'appelle « The Isle of Dogs ».
Et alors, combien de fois on vous a demandé « Est-ce que vous aimez les chiens ?»
Récemment, on me le demande beaucoup. Et j'aime les chiens. J'ai grandi avec des chiens. J'ai grandi avec un chien, qui s'appelait Chief, qui est le nom du héros de notre film. Mais je n'ai pas eu de chien avec moi depuis des années. À New York, récemment, on a fait un événement pour trouver de l'argent, pour faire un abri pour les chiens. C'est une association qui essaie de trouver des foyers pour les chiens. Et il y avait là deux chiens. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, j'étais à deux doigts vraiment de les adopter. Alors si on a de la chance, peut-être que j'aurai Clover et Buttercup, c'était leur nom. Ils seront avec moi.
Vous êtes souvent parisien, vous aimez les chiens, vous les aimez autant quand vous êtes ici parce qu'ils ont la réputation de chier partout.
Mais
pour moi, cette réputation, c'est que les chiens sont vraiment les bienvenus, même plus que les enfants dans les restaurants. C'est plus facile, on y croise plus souvent des chiens que des gosses. C'est vraiment une ville pour les chiens, dans le bon sens du terme, ici, Paris. Donc moi, j'aimerais bien avoir, ouais. Je me sentirais plus parisien si j'avais deux petits chiens.
C'est un film d'animation. On est donc tenté de croire que c'est un film tout public, mais nous sommes bien d'accord que les enfants risquent d'en ressortir légèrement traumatisés. Est-ce que c'est une pensée qui vous réjouit ?
It's not unhappy.
Non, je dirais pas que ça me fait sourire, non. Je ne crois pas qu'un enfant au-dessus de, disons, 8, 10 ans
is very likely to be traumatized.
But sera traumatisé par ce film.
Mais
je pense que ça pourrait leur faire peur un peu. Et j'ai pas envie de faire un film qui soit pour tout le monde. J'ai envie de faire des films qui où il y a des chocs, où il y a des brutalités. Et qui représente un pari et quelque chose de comme un challenge pour le public.
Et
parfois, ce qui peut rendre une scène drôle et quelque chose de peu violent, quelque chose qui est mémorable aussi pour le public. Ce sont des moments comme ça. L'atmosphère de ce film, elle est plutôt sombre, je dirais. C'est pas une histoire sombre, vraiment, mais quand même, ils habitent dans une décharge. Et jamais on a pensé que ce film serait un film pour enfants. Jamais, notre intention, jamais. C'est un film pour tout le monde. On s'est dit que le public serait, pour moi et mes scénaristes, Jason Schwartzman et Roman Coppola, et tous les gens qui nous ont rejoints pour écrire pour nous, c'était le public idéal, c'était nous-mêmes.
Mais alors, puisqu'on parle jeune public, est-ce qu'il est vrai que l'idée des chiens dans une décharge, c'est la résurgence d'un vieux souvenir d'enfance pour vous, un souvenir d'émission qui a persisté et d'un personnage en particulier qui serait Oscar dans Un rue Sésame, la créature verte qui vit dans une poubelle?
Yes, well, not so much. I mean,
those were.
I liked. There's three American things.
Il y avait trois choses américaines que je connais qui se passent dans une décharge. Il y en a un qui habite dans une poubelle, une créature qui habite dans une poubelle.
Un autre,
c'était Fat Albert, qui était une série télé. Ils habitent à Harlem ou dans le Bronx, en tout cas à New York, et effectivement dans une décharge. En tout cas, ils vont jouer dans une décharge, je me rappelle. Et puis, une émission télévisée à Los Angeles qui s'appelait St. Elton. Et c'était, ça se passait dans une boutique où ils vendaient des objets de seconde main. J'aimais beaucoup ces émissions-là. Et j'aimais que les personnages aient toujours quelque chose à faire avec tous ces objets autour d'eux, ça me plaisait.
Est-ce que c'est un film qui peut plaire à un public de chats?
Yes.
Mais oui.
I don't see why not.
Pourquoi pas?
On the surface, the film
à la surface, ce film est un peu contre les chats. Mais moi, je ne suis pas une personne contre les chats, non. Je ne suis pas anti-chat. C'est surtout quelque part une ruse de scénario. J'ai vraiment rien contre les chats, je veux le dire. Vous savez, quand on écrivait le scénario, cette ville ici s'était retournée contre les chiens. Ils étaient manipulés par les politiciens. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est plutôt une idée plutôt abstraite. Mais on s'est dit à un moment, mais si jamais on ajoutait un détail, si on mettait les chats dans l'histoire, peut-être ça pourrait simplifier un peu le problème. Mais il reste finalement pas de raison dans le film pour lequel les chiens sont ostracisés. Et moi, j'aime les chats.
On a d'ailleurs vu se multiplier ça et là des projections de votre film destinées aux maîtres avec leurs chiens. Est-ce que l'idée vous séduit ou est-ce que ça va un poil trop loin?
Alors moi, je n'ai assisté à aucune de ces projections. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça en Amérique, surtout, oui.
Et
peut-être quand j'aurai Clover et Buttercup, peut-être que je comprendrai mieux la motivation. Au bout d'un an avec eux, peut-être que j'organiserai une nouvelle projection.
Dans le registre animal, le choix est vaste. On a des ours, des singes, des souris. Alors vous, vous êtes plutôt Bernard et Bianca que Ratatouille. Après Mr. Fox, pourquoi cette passion pour les canidés ?
Part of it is, I think,
ça vient, je crois, en partie, vraiment, que les marionnettes qu'on avait utilisées pour Mr. Fox et la façon dont je voyais les animateurs travailler avec. Je prenais vraiment plaisir à ce processus, à cette expérience. Et je trouvais que les chiens étaient une bonne idée. Ils peuvent être très expressifs comme les humains. Et nos marionnettistes, ceux qui ont fabriqué leurs marionnettes, aiment vraiment donner cette impression-là. Je
ne
suis pas obsédé par les chiens d'une façon ou d'une autre. Mais je pensais, vraiment, et c'est venu avec le chien, l'île au chien, ça me plaisait. Et que ce soit un endroit vraiment peu accueillant. Et je voyais vraiment un film plein de ces marionnettes chiens, j'adorais ça.
Pop, pop.
Wes Anderson, vous avez un doigt, vous avez une bouche, est-ce que vous savez faire ça?
Ah, maîtrise.
Bah c'est très bien, bravo, c'est pour lancer les pop news.
On dit pas maîtrait hein, en revanche, Wes, si je peux me permettre. Super Ciné Battle, c'est le nom d'un chouette podcast dans lequel les auditeurs envoient des listes cinéphiles à Daniel Andreiev et Stéphane Boulet, les deux autres qui se chargent de les classer avec la mauvaise foi que nécessite l'exercice. Et Super Ciné Battle, c'est désormais un livre, ou plutôt pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, je cite, « Les listes ultimes du cinéma, intégralement gravées dans du marbre en papier ». Vous y trouverez donc la liste des meilleurs films avec Sean Connery qui ne soit pas un James Bond, en tête, je spoil, La colline des hommes perdus, le classement des meilleures moustaches de cinéma, le tout argumenté avec humour et érudition, les pires déclinaison italienne de grands succès américains, c'est à cette occasion que j'ai découvert La mort au large d'après Les Dents de la Mer, ou encore la liste des meilleurs débardeurs au cinéma, en l'occurrence celui de Bruce Willis dans Piège de cristal. Liste d'exemples absolument non exhaustive, le reste est à retrouver dans Super Ciné Battle aux éditions Dunod.
Enfin, une bande-annonce pour L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, le film maintes et maintes fois avorté ou reporté au point d'être qualifié de film maudit. Mais ça y est, le film est enfin tourné. C'est l'histoire de Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, qui se retrouve pris au piège des folles illusions d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être Don Quichotte. Bande-annonce.
Giant with arms 6 miles long. She is in terrible danger.
Don't move. Just lie are you still?
Oh, I see the love light in your eyes.
Don Quixote de la Mancha.
Come to restore the lost age of chivalry.
Well, I wrote that.
Blasphemer, a hand of our God in heaven wrote me.
Can I read?
Dans le rôle du Sancho Panza moderne, Adam Driver, vu dans la série Girls et dans les derniers Star Wars, dans celui de Don Quichotte, Jonathan Pryce, le High Sparrow de Game of Thrones, et on attend maintenant une date de sortie.
Et pour cette spéciale L'île aux chiens de Wes Anderson, nous ne pouvions pas passer à côté de cette merveilleuse chaîne YouTube répondant au nom de Funny Pets, sur laquelle, comme son nom l'indique, on trouve des vidéos d'animaux et bien sûr, des chiens qui chantent. Cadeau au Mike, un berger blanc suisse. Je suis désolée, j'ai pas d'autre chute.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Non, ça c'est Dark Vador.
Aouh! Avant de retrouver la suite de l'entretien avec le réalisateur Wes Anderson, on écoute les Pointer Sisters et le morceau Happiness.
I love the way you love to live.
J'ai bien prononcé le H là, non?
Parfait.
You love life.
Comme dans Harry Potter. C'est ça?
Your inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to.
Pointer Sisters et Happiness, c'est un morceau de 1978. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oh, like it. Wes Anderson signe un nouveau film, L'île aux chiens. Écoutons le pitch. Alors attendez, il faut que je traduise. En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megazaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de 5 chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. Comme c'est Wes Anderson, c'est un événement, et comme c'est un événement, c'est dans Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop. Vous donnez l'impression d'avoir une famille artistique autour de vous. Le comédien Jason Schwartzman, que vous citiez il y a un instant, un habitué de votre cinéma, est l'un des premiers à qui vous avez fait part de votre idée de chien alpha sur une île des charges, tout comme Roman Coppola et Kunichi Nomura. Une fois que vous tenez une idée, est-ce que vous avez besoin de la partager avec votre gang pour faire avancer l'intrigue?
Well, when it comes to writing,
au niveau de l'écriture, je travaille vraiment beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de plaisir. En collaboration. Parfois, j'écris de mon côté, mais c'est plus lent. J'ai besoin et j'ai envie d'avoir des collaborateurs. Et ceux-là, en particulier, sont de très vieux amis. À moi, on s'amuse toujours beaucoup quand on travaille ensemble. Ils ont tous les deux leur talent particulier et qu'ils apportent au scénario. Mais au-delà de ça, j'ai tellement de collaborateurs, vous savez, dans la production d'un tel film. On travaille chacun sur des choses différentes. Ici, à Paris, je finis ici à Paris avec Alexandre Desplat. Et je travaille sur la musique et c'est lui. J'ai déjà 3-4 films que j'ai fait avec lui et il apporte tellement de choses. 4 films.
C'est votre 8e collaboration avec Bill Murray. Un film sans Bill Murray, c'est aujourd'hui totalement inenvisageable.
Well, I just don't see why we would do that.
Je sais pas pourquoi on ferait ça, un film sans lui.
There's always, even, sometimes Bill has played
toujours quelque chose à trouver. Parfois, il a de très grands rôles importants, même tout le film est sur ses épaules.
Often he's played very small roles.
Parfois, il a joué des tout petits rôles. Il aime bien ça.
He likes to come and visit.
Je crois qu'il aime bien juste passer comme ça, pas sentir trop de pression. Prendre plaisir à jouer. Et ce qui est génial avec Bill, c'est que même quand il joue un tout petit rôle, il nous rejoindra quand même pour la sortie du film et pour être avec nous lors de la sortie. C'est effectivement une famille, et Bill en particulier. C'est vraiment un membre éminent et proche de cette famille.
Alexandre Desplat, dont vous parliez il y a un instant, c'est à lui que vous avez fait appel pour réaliser la musique de ce film. Il avait déjà été oscarisé pour votre Grand Budapest Hotel. Quelle directive vous lui avez donnée pour celui-là en particulier ?
Je ne sais même pas si c'est vraiment des directives. Alexandre et moi, dans ce film, pour ce film-là, ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé à travailler. Je lui ai parlé de l'idée, je lui ai montré un peu sur quoi on travaillait, et on a commencé à écouter des choses et à trouver, à chercher. Il fait des suggestions, et moi je lui suggère aussi des morceaux à écouter, et donc on fait cette recherche. Petit à petit, pour ce film en tout cas, au bout de 2 mois et d'années, on commence à comprendre la direction dans laquelle on doit aller. Et c'est à la toute fin du processus, et très rapidement, qu'il commence à composer. Et là, du coup, je peux lui indiquer les directions à prendre. Parfois, je vais avec lui, et il me montre 5 propositions en 10 minutes, et on l'utilise toutes. Ça devient quelque chose de très spontané. Et c'est très enthousiasmant. Et c'est en même temps quelque chose de dangereux, de risqué.
Qui dit animaux dit fable, qui dit fable dit morale. Est-ce que vous vous voyez comme un moraliste ? Si morale il y a, quelle serait-elle ?
J'ai l'impression que ce que ce film raconte, finalement. Et j'ai pas envie de faire de grandes déclarations. C'est un film d'animation qui parle de chiens. Mais au fond de mon cœur, si vraiment je suis sincère sur ce que je pense que le film est intimement, ça parle de gens qui se rassemblent pour lutter contre l'autorité. Des gens qui combattent pour la liberté, contre la tyrannie. Et aussi, quelque part, pour moi, c'est un combat pour la liberté d'expression artistique. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais bon, ça, c'est moi qui fais l'interprétation de notre film, alors que quelqu'un d'autre pourra trouver quelque chose de complètement différent sur le film. Je ne sais pas si les films... si beaucoup de gens voient tant que de morale que ça dans cette histoire de chien.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes assez souvent parisien. Quel regard portez-vous sur notre étrange pays ? Est-ce qu'il y aurait matière à vous inspirer une fable ?
J'ai pas très envie de répondre parce que j'aimerais faire une fable sur la France, voilà. Mais je voulais pas l'annoncer encore. Donc je vous dirais que je suis un étranger ici, complètement, en ce pays. Mais je me sens très proche de ce pays, de cette ville. Et j'ai envie de faire quelque chose qui parle de ça, de mon expérience, de ma vie, moi, d'étranger, qui se sent à l'aise ici à Paris.
Mais Paris est une ville d'aliens, hein, de toute façon.
Oui, c'est vrai. Il y a des aliens français et des aliens du monde entier.
Si vous croisiez aujourd'hui le jeune Wes Anderson, celui de 25 ans, celui du court-métrage Bottle Rocket, quel conseil vous lui donneriez ?
I think I probably wouldn't understand him.
Je crois que je ne le comprendrais pas.
I think when I think back to myself,
quand je pense à moi à cet âge-là,
I was much more confident.
J'avais beaucoup plus confiance en moi.
I was very sure of myself. J'étais
très sûr de moi-même.
And I was not very well informed.
Et j'étais pas vraiment très au courant.
I knew nothing of the world.
Je connaissais pas du tout le monde.
My little narrow area.
Mais dans la petite chose que je connaissais, j'étais absolument sûr de moi. C'est vrai.
Maybe that's a good way
et c'est peut-être une bonne façon de démarrer.
But I will say
mais je dirais que
it's been, for me,
pour moi,
you know, I made two movies in Texas, where
j'ai fait deux films de Texas dont je suis originaire, et puis je suis allé à New York. Et puis j'ai commencé à travailler dans d'autres régions du monde.
For me, I feel like
et là, j'ai l'impression que c'est ma chance, c'est mon luxe d'avoir eu la possibilité, la chance de faire ça, parce que ça a complètement changé mon point de vue sur l'art et sur la vie.
Merci Wes Anderson.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est mon plaisir.
L'île aux chiens, ça sort aujourd'hui. Oh, mais qui voilà, avec son collier et sa laisse et sa truffe toute humide.
Non, non plus.
Tout de suite, dans Pop, un petit sketch de Renan Crow.
Mais oui, Renan Crow.
Expliquez aux auditeurs que ça...
Vous voulez vraiment que j'explique? Mon enfant qui écoute attentivement cette émission est fan de Renan et m'a dit il y a quelques semaines, il vient souvent faire des petits sketchs, Renan.
Ben voilà,
donc on a trouvé que c'était très adéquat.
Ben, je vais faire un petit sketch.
J'embrasse
Juliette. Je vais faire un petit sketch rien que pour toi. Bon, justement, je suis là pour remettre un peu d'ordre dans cette émission, pour dire sus à l'Omerta, en gros.
Sus qui?
À l'Omerta.
À l'Omerta.
Antoine.
Oui.
J'ai une image de l'homme Erta, comme les saucisses. C'est très étrange.
Un homme saucisse, vous voulez dire. C'est très intéressant cette chronique. Et voilà, mon petit sketch est fini.
La marque
du
Erta.
Du coup, suce l'homme Erta.
Oui,
c'est
ça y est, nous y sommes.
On va arrêter de raconter n'importe quoi aux auditeurs.
Oui,
vous regardez de la merde à la télévision, ce qu'on appelle la fameuse lazy TV, hein, lazy, paresseux, feignant. On a tous fait ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le couch potatoes. Hein. C'est quoi le couch potatoes, vous savez?
C'est faire la patate sur son canapé.
Je n'aurais pas dit mieux, Charline. Alors, il est temps de révéler à la France entière, à la France inter même, ce que vous regardez à la télévision. Charline, c'est quoi votre péché mignon à
alors,
la télé?
Moins maintenant parce que je travaille à cette heure-ci, mais les reines du shopping.
Évidemment, les reines du shopping. Et justement, c'est cette télévision-là dont on va parler. Aujourd'hui, donc, vous avez les reines du shopping, chasseurs d'appart, Koh-Lanta, danse avec les stars. Et ben, il se trouve en fait que le géant de la plateforme Netflix a décidé de s'y mettre aussi. On nous avait dit Netflix, c'est une révolution, ça va changer les contenus. Non, en fait, Netflix vous propose aussi de la lazy TV, mais de la lazy TV venue notamment d'Angleterre. Alors, je vous ai choisi mes trois petits péchés mignons. Donc si vous avez fini Danse avec les stars et que vous êtes complètement accro de foxtrot, de cha-cha-cha, de passo doble et autres figures sportives, je vous propose de regarder sur Netflix Baby Ballroom. On va voir à quoi ça ressemble.
You have to dedicate your life to dancing.
They are half the size.
We want first place.
And double the trouble. Ballroom dancing like you've never seen before.
On s'éloigne un peu du concept initial de Netflix, on est d'accord.
Ah mais complètement.
Là, c'est en train de devenir une chaîne comme les autres.
C'est exactement le sens de cette chronique aujourd'hui. C'est donc un petit sketch et une chronique en même temps. C'est double cachet aujourd'hui. Puisque Baby Ballroom, en fait, c'est une production BBC qui est diffusée maintenant sur Netflix. Et ça parle de quoi? D'un concours de danse avec des enfants. Soit à peu près l'enfer absolu, hein, puisqu'ils font du cha-cha-cha, du passo-doble. Mais ils ont entre 6 et 8 ans.
Et qu'il y a des enfants.
Et qu'ils ont entre 6 et 8 ans et qu'ils sont gobidés. C'est assez fascinant à regarder. Moi, je suis assez fan de cette série. C'est-à-dire qu'on les voit se tomber, se relever, se battre pour un concours, pleurer évidemment parce que ce sont des enfants. Donc si vous avez un petit côté sadique, c'est parfait pour vous. Et en plus, c'est Danse avec les stars sans l'horrible Jachette, là, je sais plus comment il s'appelle, Jachette, il hurle tout le temps Jachette. Vous ne regardez pas Danse avec les stars?
Non.
Oh là là, vous n'êtes pas Jean-Marc Généreux, évidemment, vous n'êtes pas la France.
Ah, Jean-Marc Généreux, bien sûr.
Sinon,
vous
n'êtes pas la France.
Nous ne sommes pas
Monsieur
la France.
De Cône, vous n'êtes pas la France.
Je ne vous permets pas, Monsieur Cro.
Je ne vous ai pas coupé la parole, ne me coupez pas la parole.
Monsieur Cro dans l'émission sur une île aux chiens.
Exactement. Sinon, Top Chef, on avait reçu Thierry Marx il y a quelques temps ici dans l'émission.
Ah, mais c'est pas de la lazy TV,
mais
Top Chef. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, Renan. C'est une émission de qualité.
Allez dire à Thierry Marx qu'il est lazy.
C'est un peu de la lazy TV. Hein. Je vous rappelle que c'est regarder des gens faire des ballotines, à peu près. Donc, globalement.
Oui, mais enfin, vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'aimez pas manger, donc ça ne compte pas.
C'est vrai.
Ça ne te voit pas.
Si... Oh, c'est charmant. C'est pour la radio, c'est parfait. Le principe, c'est que Top Chef, le meilleur pâtissier, des gens qui font de la cuisine. Oui, mais Netflix a mieux. Et si des gens faisaient de la cuisine, mais ratés, ben, ça s'appelle C'est du gâteau et c'est sur Netflix.
Nailed it.
Oh my god. 2 hours on the clock! Let's see who nails it and who fails it. Let's do this, let's go.
Rassurez-moi, Netflix s'éloigne considérablement de son concept initial. C'est en train de devenir une chaîne comme les autres.
Effectivement, Antoine. D'accord. C'est le but de cette chronique, est aussi un petit sketch. J'ai un air de déjà-vu, pas vous?
Non,
c'est
pas
très
du tout.
Étrange.
Je ne sais pas. Enchaîné. Ça s'appelle donc Nailed It en anglais, ou C'est du gâteau. Le principe, c'est des gens qui doivent refaire des gâteaux incroyables, des gâteaux magnifiques, sauf qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc, ça donne à peu près un quelque chose entre le dégueulis et le... tout ce que vous voulez.
Mmh. Bon appétit si vous êtes à l'heure du goûter.
C'est fascinant à regarder puisque c'est regarder des gens échouer. Et ça s'appelle Nailed It, c'est hystéro comme on a pu l'entendre avec l'animatrice. C'est plein de couleurs et c'est extrêmement rigolo à regarder puisque c'est des gens qui ratent. Et qu'est-ce qu'on aime les gens qui ratent dans la vie. Alors évidemment, vous allez me dire Antoine, ce n'est pas sérieux, nous sommes sur France Inter, il faut mettre du contenu
oui,
dans cette émission.
Oui, il faut mettre un peu de contenu s'il vous plaît, Renan Creux.
Évidemment, donc je vous propose l'alternative à mon émission favorite en ce moment qui s'appelle donc Chasseur d'appart. Hein. Vous connaissez Chasseur d'appart puisque le samedi sur M6, on peut y passer la journée entière. En cas de dépression, je vous conseille d'arrêter tout de suite, sinon on s'enfonce encore plus. Eh bien, Netflix a le Chasseur d'appart, mais des gens qui ont énormément d'argent. Ça s'appelle The Most Extraordinary House of the World. C'est extraordinairement impressionnant puisque ce sont deux Anglais qui se baladent dans les meilleures maisons du monde.
It's beautiful. Do you know what I really love about it? You've got the desert and the mountains on either side, and yet this house just enhances it and doesn't take away from it. And I think that's so wonderful.
Rassurez-moi, Renan, Netflix s'éloigne considérablement de son concept initial. C'est en train de devenir une chaîne comme les autres.
Je crois, Antoine. Je crois qu'effectivement, Netflix, globalement, est en train de devenir une chaîne de télévision.
Et c'est quoi le sujet de cette chronique?
Mais je vous laisse finir votre sketch.
Sinon, donc, vous avez entendu, ce sont donc un architecte et une animatrice qui se baladent dans les plus belles maisons du monde. Une maison faite en avion, une maison dans le désert américain. On bave hein, devant cette émission qui donc est découpée en épisodes selon des thèmes. La montagne, la mer, le désert. Bah voilà, c'est mieux que Stéphane Plaza qui hurle double vasque. Donc, quitte à plutôt regarder M6, regardez plutôt The Most Extraordinary Home of the World sur Netflix. Et globalement, Netflix, aujourd'hui, on peut le dire, est devenu une chaîne de télévision.
C'est ce que comme les autres. Depuis le départ.
Ah, mais je l'avais dit aussi, Antoine.
Merci, Renan. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais.
Alors, où est-ce que j'ai bien pu le ranger? C'est quoi ce bruit? Mais c'est toi mon cochon? Henri? Mais c'est quoi ces petits yeux rouges qui sont en train de me fixer dans le fond de la cave là? Mais c'est pas mon cochon, c'est un chien! Oh là là, faut que je me casse! Oh là! Oh mais! Mais c'est qui André ce con là? Mais non! Mais ma chemise! Arrête! Mais comment ça j'ai pas assez parlé des chiens du film de Wes Anderson? Mais j'ai fait que ça! Quoi? Pourquoi on a fait une spéciale chat le mois dernier et pas une spéciale chien? Mais attends, je peux t'expliquer. C'est... Mais oui, non, pardon, vous expliquez. Vous avez raison, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Hop. Mais Henri, toi tu restes en dehors de tout ça, s'il te plaît, d'accord? Mais non, mais pas mon pantalon, enfin je viens de l'acheter là. Un petit pantalon en velours côtelé, je vais me retrouver en slip kangourou, moi. Stop, stop. Non, pardon madame kangourou, je disais pas ça pour vous.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Oui, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage.
festival de Woodstock. C'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie.
Johnny Hallyday, Jésus-Christ dans Pop 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 sur France Inter, un morceau de 1970, extrait de l'album. Merci Wes Anderson de nous avoir accordé cet entretien. L'île aux chiens, votre nouveau film, vient de sortir. Il est chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Demain dans Pop Pop Pop, le photographe Richard Bellia et Hugh Coltman. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme disent les chiens qui font des tutos sur YouTube. Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Julien Michel, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire.